Ok, on va continuer notre leçon sur Josué. On avait commencé un petit peu la semaine dernière, la première partie. On continue sur le livre de Josué. Alors, on va examiner aujourd'hui quelques autres aspects du livre de Josué qui n'avaient pas été couverts lors de notre leçon précédente. Pour rendre le livre de Josué très pratique, il faut se demander ce que signifient les expériences d'Israël. Donc, ils ont eu des victoires, ils ont eu des défaites, ils ont eu aussi des désobéissances. Et on se doit, si on veut en profiter, d'y comparer un petit peu avec les nôtres pour apprendre des leçons de tout ça. Alors, on va constater rapidement que rien n'a changé sous le soleil et que les leçons d'alors s'appliquent encore à nous de nos jours. Nous allons donc réviser le plan du livre que nous avions vu dans la première leçon. Nous avons déjà constaté que le thème principal du livre est la victoire de la foi. Nous avons remarqué que les différents chapitres du livre traitent d'un aspect particulier de la foi. Si nous réexaminons en détail les différents chapitres, nous pourrons observer comment nous pouvons appliquer ces leçons à notre vie. Alors, c'est très intéressant de regarder. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus utile que quand tu veux, disons qu'on quelqu'un est rendu, il a fait Deutéronome, puis là, il tombe sur Josué. Avant de commencer à lire Josué, que tu passeras à travers tes deux leçons. Pas très, très long, mais c'est ouais. Parce que ça aide énormément. Puis surtout, si tu gardes le plan, disons, devant toi, quand tu lis. Comme par exemple, on voit que l'entrée dans la terre promise, ça se fait dans le chapitre 1 à 5. Et on voit que on a une idée principale par chapitre. Donc, le chapitre 1, c'est Josué qui est commissionné divinement. Donc, c'est Dieu qui lui demande de rentrer dans la terre promise. Donc, on pourrait dire que c'est la garantie de la foi. Si Dieu te promet quelque chose puis qu'il t'a dit d'y aller, c'est garanti. La deuxième, c'est vraiment Jéricho qui est espionné. On se souvient que Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des espions pour aller voir la ville de Jéricho. Donc, c'est vraiment la prudence de la foi. Autrement dit, tu t'avances pas dans le combat spirituel sans d'abord faire des vérifications. Un peu comme on agit dans le monde naturel, c'était un petit peu l'équivalent dans le monde spirituel. Après ça, au chapitre 3, on sait que c'était la traversée du Jourdain. Il fallait qu'il traverse le Jourdain, et c'était le printemps. Le Jourdain était en cru, on dit. Quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu... Moi, je n'ai vu une fois, je me souviens pas, t'as-tu pas loin de Sherbrooke, là. J'ai jamais vu une rivière aussi élevée que ça. On est descendu, puis à un moment donné, elle levait, mais on la voyait élever. C'est assez que tu as peur. Là.
Oui,
parce que si ça déborde, puis il y a du courant là, le printemps. Oui. Alors, c'était le cas, et il fallait qu'il traverse. Imagine, tu arrives là avec un peuple de... Je pense qu'il était quelque chose comme plusieurs millions, puis tu vois le fleuve qui est en cru. Il y avait un problème de traverser ça. Donc, c'était une crise de la foi. Tu arrives devant ça, tu dis, ouais, comment on va faire de traverser ça? Alors, les mémoriels bâtis, donc après qu'ils ont eu traversé, dans le chapitre 4, on voit que les différentes tribus ont voulu garder une mémoire de leur victoire, de leur traversée du fleuve. Donc, on pourrait dire que c'est le témoin de la foi. Et Gilgal occupé, chapitre 5, les mondages de la foi. Après ça, dans la deuxième partie du livre, on a la conquête de la terre. Donc, tu as l'entrée dans la terre, la conquête de la terre. Là, ils ont commencé à vouloir rentrer, puis chasser des païens, puis prendre leur place. Donc, on a la première chose qui est arrivée, c'est la chute de Jéricho. Donc, la foi triomphante. Dieu a permis que par des moyens assez extraordinaires, la chute de Jéricho, si vous vous en souvenez, il a juste demandé au peuple de tourner en rond. Tourner en rond autour d'une ville, normalement, t'as pas de victoire comme ça, là. Et Dieu a permis que les murs, se sont écroulés par eux-mêmes. Mais c'était le Seigneur lui-même qui le faisait. À quelque part, c'était la foi triomphante, la foi triomphait. Après ça, on a dans le chapitre 7, le péché d'Acan. C'était à quoi le péché d'Acan? Les Chidakins, ils avaient pris, ils avaient caché un manteau de chinéas et des richesses qu'ils avaient enterrées pour son bien-être personnel, alors que le Seigneur lui avait dit de ne pas, que c'était interdit, qu'il n'aurait pas dû se prendre ça. Donc, c'est la foi invalidée. Autrement dit, ils ont commencé à avoir des problèmes à cause qu'il y a des gens qui ont désobéi aux directives divines. Après ça, on a eu la prise d'Haïe, chapitre 8, la foi revalidée. Haïe, c'était une petite ville, et là, ils ont pensé qu'il était assez fin pour la... envoyons pas toute l'armée là, une petite place de rien, on voit 20 guerriers. Puis, ils se sont fait avoir. Haïe, ils ont vaincu. Fait que là, c'est vraiment l'idée, la foi revalidée. C'est qu'autrement dit, ils ont appris que si le Seigneur n'est pas le bord, ils peuvent perdre. Après ça, on avait la ruse des Gabaonites dans le chapitre 9. Donc, la foi qui est compromise. Des Gabaonites, c'est à ceux qui avaient arrivé et disaient « Ah, on n'est pas des ennemis, on a du pain sec, on a ci, on a ça. » Et ils se sont fait passer pour des gens qui n'étaient pas vrais. C'était pas vrai ce qu'ils disaient. Et eux, ils ont signé une alliance avec eux autres. Et à quelque part, après, quand ça a été découvert que c'était des ennemis, ben là, vu qu'ils avaient pris une alliance, ils ont été obligés de respecter leur alliance. Alors ça donne ce qu'on disait tantôt au début. Si tu lis le livre, juste l'histoire, puis tu fais pas un petit peu un parallèle avec ce qu'on vit dans notre vie, dans la vie, notre vie de foi. Des fois, on a des équivalents dans notre vie de foi. Donc, la ruse des Gabaonites, la foi compromise, et la déroute des ennemis, chapitre 10 à 12. Donc, la foi victorieuse. Et ensuite, après, on a l'entrée, on a la conquête, ils ont rentré, puis ils ont conquis différents territoires. Et après ça, du chapitre 13 à 24, on a vraiment l'occupation de la terre durant tout ce territoire-là. Bon, il y avait les divisions de Canaan, chapitre 13 à 19. Là, il a dit, telle tribu va avoir telle limite. La foi récompensée. Les cités de refuge, dans le chapitre 20. Et les portions des Lévites, dans le chapitre 21. Donc, la foi protégée, la foi préservée. L'autel du témoignage, au chapitre 22. La foi unissante et les adieux de Josué, chapitres 23 et 24. C'est un livre qui est très riche au point de vue de la foi. Apprendre comment la foi fonctionne avec ses faiblesses et avec ses forces, avec ses misères et avec ses victoires quand il y a obéissance. Pourquoi que cette leçon-là est un petit peu plus longue au point de vue des notes? C'est parce que le matériel que j'ai ramassé pour chacune des leçons de tous les livres, je prenais ça à bien des endroits différents. Puis je faisais un rassemblage. Et à un moment donné, des fois, je faisais des recherches sur Internet, puis j'avais trouvé sur le site BibliQuest des observations qui ont été tirées. C'est vraiment, je l'ai pris sur Internet tel quel. Parce que ce qu'il a fait, la personne qui a fait ce site-là, il a pris le livre de Josué, et il l'a pris chapitre par chapitre, et dans à peu près 10-15 lignes, il a résumé chacun des chapitres, tous les chapitres. Alors, si tu étudies le livre, puis tu prends connaissance de ça avant, ça va vraiment aider beaucoup à la compréhension du livre, et aussi à son application à notre vie de tous les jours, aujourd'hui. Parce que, je l'ai répété souvent à l'église, je le répète encore, si on lit la Bible en voyant uniquement une histoire et qu'on n'applique pas ce qu'on lit à notre et faire un parallèle avec notre propre vie, on manque le bateau parce que le Seigneur lui-même nous dit dans le Nouveau Testament que les choses-là nous ont été données pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Ça dit tout, ça. Oui. C'est le Seigneur lui-même qui dit « Ça a été donné pour votre instruction, donc ça t'instruit. » Pour te servir d'exemple, c'est que on sait qu'on aime ça, les exemples. Des fois, on parle de quelqu'un, on dit, donne-moi un exemple. Et il va te donner. Les exemples, c'est pour montrer que si tu agis de telle façon, voici ce que ça donne comme résultat. Puis si tu agis de telle autre façon, voici ce que ça donne comme résultat. On retire des leçons pour notre vie de tous les jours aujourd'hui. Donc, on va regarder le chapitre 1. Donc, c'est vraiment qu'on avait gardé, quand on regarde dans notre plan, vis-à-vis de chacun des chapitres, il y avait le mot « foi », mais avec une différence. Le chapitre 1, c'est vraiment la garantie de la foi. Pourquoi Josué était confiant d'aller rentrer dans ce pays-là alors qu'il savait qu'il y avait des ennemis là, il n'était pas sûr qu'il était pour gagner. Mais si Dieu dit rentre, parce que je vais te donner la victoire, ben tu as la garantie, tu as une garantie divine. Donc le livre de Josué nous fait entrer avec Israël dans le pays de la promesse pour en prendre possession. Un nouveau conducteur remplace Moïse, donc c'est Josué, que nous connaissons pour l'avoir vu, jeune homme, combattant, apprenant, servant et rendant témoignage. C'est intéressant de voir les différents aspects de la personne. Hein? Ils nous ont montré, Josué, le Seigneur lui a donné à Josué d'être le leader de son peuple, mais avant qu'il soit le leader, il nous avait montré qu'il était, quand il était jeune, il était déjà un combattant, c'était déjà une personne qui a demeuré avec Moïse, donc il a appris. C'était aussi une personne qui avait une mentalité de serviteur et une personne qui rendait témoignage. Donc, il avait été formé par les longues années dans le désert. Il est maintenant appelé à prendre de grandes responsabilités. Imaginez-vous, Moïse meurt. Toi, tu es l'assistant de Moïse. Là, le boss, il meurt. Et tu dois trouver ça lourd, là. 6 millions de personnes, puis c'est moi qui est le leader. Ils me suivent, moi, là. Alors, ça devait être très lourd pour Josué. Alors, il avait été formé pendant des longues années. Avant d'y faire face, il est encore une fois encouragé par l'Éternel. Alors, avant qu'il rentre dans le pays, le Seigneur lui dit, et il l'encourage dans le verset 6, 7 et 9. Et il est aussi encouragé par ses frères, dans le verset 18, avec cette exhortation. Que ce livre de la loi, donc pour nous c'est toute la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Où l'importance de la parole de Dieu. Un chapitre qui parle uniquement de foi, puis qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Puis là, il ajoute quelque chose. Médite-le, dis pas une fois de temps en temps, jour et nuit. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse partie intégrante de ta vie. Alors, tel sera le secret de sa prospérité spirituelle. Et aussi, bien entendu, si c'était le succès spirituel de Josué, si on accorde la même place à la parole dans nos vies que Josué lui a donnée, on va avoir les mêmes résultats. Donc, le livre de Josué illustre les vérités développées dans les Éphésiens. De même que les fils d'Israël pour la conquête de Canaan, les chrétiens ont des combats spirituels à livrer pour la jouissance des lieux célestes. Il leur est dit, comme à Josué, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, tenez donc ferme, comme on peut le lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 14. » Moïse représentait Christ conduisant les siens hors du monde. Josué personnifie l'Esprit de Jésus, c'est le même nom hébreu, les introduisant dans le ciel avec lui. Très intéressant toutes ces correspondances-là. Chapitre 2, la prudence de la foi. Donc, on parle d'utilisation de moyens. Chapitre 2, versets 1 à 13. Deux grands obstacles s'opposent à l'entrée du peuple en Canaan. En premier lieu, le Jourdain, qui constitue la frontière. Ensuite, sur l'autre rive, la forteresse redoutable de Jéricho. Josué y envoie deux espions. Leur mission semble s'être bornée à cette visite chez Rahab et à prendre connaissance, non de la puissance de l'ennemi, mais de celle de Dieu opérant dans le cœur de cette femme. Intéressant. Voir comme cette femme-là, qui était une païenne, elle avait compris que Dieu était victorieux en ayant observé les victoires divines de d'autres nations. Alors Rahab a entendu ce que Dieu avait fait pour son peuple, elle a cru en lui. Enfin, la voici qui agit, car la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques la prend comme exemple de cette vérité, elle, cette misérable cananéenne, en compagnie d'Abraham lui-même. On lit dans Jacques 2, 25. Donc, aux yeux des hommes, l'acte de cette femme, une trahison, est parfaitement répréhensible. Mais il n'en fait ressortir que mieux entre une œuvre de foi agréable à Dieu et une bonne œuvre louée par les hommes. Ce que fait un croyant est loin d'être toujours compris et approuvé par le monde. La foi de Rahab lui vaudra une place d'honneur dans deux listes remarquables du Nouveau Testament. La généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, quand même bizarre, hein? Une prostituée du Ancien Testament, du peuple cananéen, qui était un peuple d'idolâtres, et de c'est grave, les cananéens. Puis, donc, elle rentre dans la généalogie de Jésus, et l'énumération des fidèles témoins du chapitre 11. Si vous allez lire votre chapitre 11 du livre d'Hébreu, Rahab est mentionnée. Quelque part, une païenne que Dieu avait permis qu'elle ait les yeux ouverts puis qu'elle se rende compte que Dieu donnait toujours victoire. Et là, elle a voulu protéger les espions. Alors, elle l'a fait. Et si elle ne l'avait pas fait, elle serait décédée puis sa famille aussi. Et Dieu l'utilise en deux endroits dans le Nouveau Testament pour parler d'elle. C'est quand même spécial quand on regarde ça. Alors, la foi de Rahab lui vaudra une place d'honneur dans les deux listes remarquables du Nouveau Testament. La généalogie de Jésus et l'énumération des fidèles témoins du chapitre 11 des Hébreux, où elle sera la seule femme nommée avec Sarah. Josué, chapitre 2, versets 14 à 24. Le fait que Rahab était non seulement une ennemie, mais une personne peu recommandable, souligne la profondeur de la grâce divine. Bel exemple de grâce, hein? Une prostituée, elle vivait sur les murs, et elle s'organisait, je suppose, pour faire pendre quelque chose, et puis vivait là-dessus, au crochet, dans la ville de Jéricho. Elle vivait là comme une prostituée. Mais Dieu lui avait ouvert le cœur à la compréhension que Dieu donnait la victoire au peuple d'Israël. Puis aussi, elle a eu peur, puis elle a sauvé sa vie et celle de... Non seulement sa vie physique, mais sa vie spirituelle, sa vie éternelle aussi. Comme une autre cananéenne au temps du Seigneur, sa foi l'a fait participer spirituellement aux miettes qui tombent de la table des enfants d'Israël. Le moyen par lequel sa maison va être protégée nous rappelle la Pâque et le sang de l'agneau sur les portes et fait de Rahab une vraie fille d'Israël. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait fait? Des rubans rouges. Alors ça représente un peu le sang de Jésus qui la protégeait. Parce que quand l'armée rentrait, il y avait une entente avec les chefs. Si vous voyez une maison avec un ruban rouge, ceux-là, vous ne les tuez pas. Alors, en prévision du jugement qui va tomber sur Jéricho, elle et les siens sont invités à se placer sous la protection du cordon d'écarlate. Et nous remarquons que celui-ci est aussitôt attaché à la fenêtre. Se mettre sans tarder à l'abri du sang rédempteur, voilà ce que Rahab nous enseigne si nous ne l'avons pas encore fait, car le jugement vient sur le monde aussi sûrement qu'il est tombé sur Jéricho. Cette femme proclame sa certitude que le Dieu d'Israël remportera la victoire et elle se fie à la promesse qu'elle reçoit de sa part. Le compte rendu des deux espions est bien différent de celui des 10 éclaireurs du chapitre 13 du livre des Nombres. Oui, l'Éternel a livré, non pas livrera, a livré tout le pays en nos mains. Ce verset 24 est l'accomplissement textuel de ce que déclarait 40 ans plus tôt le cantique de la mer Rouge. Autre chose, quand on lit les Écritures, c'est de se souvenir qu'est-ce que le Seigneur a dit. Des fois, on est rendu, disons, on parle d'Exode. On est rendu dans Josué. Bien souvent, on ne se souvient plus de ce que le Seigneur a dit dans Exode. Mais lui, le Seigneur, il ne l'a pas oublié. Très intéressant. Josué, chapitre 3. Donc, on peut parler de la crise de la foi. Donc, c'est vraiment... la mer Rouge barrait à Israël la sortie d'Égypte. Le Jourdain, lui, ferme à présent l'accès en Canaan. Les gens arrivent, puis ils voient un fleuve en crue. Il faut traverser. Hey. On a un problème. Et la traversée de ce fleuve va nous apprendre une nouvelle vérité de toute importance, celle de notre mort avec Jésus-Christ. Dès ici-bas, l'enfant de Dieu est invité à posséder le ciel par la foi et à en jouir. À cela correspond l'entrée en Canaan. Mais de même que pour y pénétrer, il fallait traverser le Jourdain, fleuve de la mort, de même un chrétien ne peut entrer en possession du ciel et en goûter actuellement les joies sans avoir réalisé qu'il est mort avec Christ. La croix, où mon Sauveur a laissé sa vie, frappe et condamne ma volonté naturelle corrompue, ce vieil homme qui veut sans cesse reprendre le contrôle de ma vie et qui, pourtant, n'a aucun droit d'entrer dans le domaine céleste. Que de tourments il me cause. Mes efforts pour le corriger sont inefficaces. Comment le mettre hors d'état de nuire, le faire mourir? Eh bien, j'apprends avec bonheur que ce qui a été accompli une fois pour toutes à la croix et qu'il me suffit de l'accepter pour aussi simplement que le pardon de mes péchés. Jésus n'a pas seulement été crucifié pour moi. Je suis, moi, crucifié avec lui, comme on peut le lire dans Galates, chapitre 2, verset 20. Telles sont les merveilles que Dieu a fait en notre faveur. Ensuite, on a dans le chapitre Josué, chapitre 3, verset 14 à 18, et les huit premiers versets du chapitre 4. L'arche, la première, pénètre dans les eaux et ouvre un passage au peuple. L'entrée de Christ dans la mort nous ferait un chemin par lequel nous n'avons pas passé ci-devant, un chemin nouveau et vivant. Avant la croix, personne n'était définitivement sorti de la mort après y être entré. Mais Christ l'a fait, en sorte qu'à présent, nous la traversons avec lui sans en connaître l'amertume. Ils passèrent le fleuve à pied, là nous nous réjouîmes en lui. Comme on vous lit dans la psaume 116, qui fait référence à cette histoire-là du livre de Josué. Nous constatons que l'arche est restée dans le lit du fleuve jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Merveilleuse garantie de la sécurité du peuple. La mort ne peut nous engloutir. Christ y est tenu à notre place. Mais pensons à ce que cela fut pour le prince de la vie que de livrer lui-même son âme à la mort. Le livre de Jonas 2:4 mentionne toutes les terribles vagues qui ont passé sur lui dans leur pleine réalité. Les eaux l'ont environné jusqu'à l'âme. Le psaume 42, verset 7. Cher Sauveur, pour lui, la souffrance et la mort, pour nous, la délivrance, la vie, le bonheur. Les eaux n'ont pu t'atteindre, le fleuve n'a pu submerger l'amour fort comme la mort qui l'avait conduit dans ses flots afin de nous en arracher. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6 et 7. On va faire jusqu'à encore un autre, jusqu'à 5, puis on va arrêter là. Donc, chapitre 4, les mémoriels bâtis. Donc, les témoins de la foi, la fidélité et la puissance de Dieu. Donc, dans le chapitre 4, à partir du verset 9, aller jusqu'au verset 24, sur l'ordre de l'Éternel, Josué a fait retirer 12 pierres du fond du lit du fleuve pour en faire un monument à Gilgal, au verset 20. Dans le Jourdain, il en dresse 12 autres que les eaux vont recouvrir, dans le verset 9. Que signifient pour nous ces pierres? Verset 6. L'Épître aux Romains traduit leur langage. Elles représentent les croyants identifiés avec Christ dans sa mort, au fond du fleuve, ainsi que dans sa résurrection sur la rive du pays. Et l'unité du peuple est proclamée par ces 12 pierres, donc les 12 tribus, qui constituent ensemble un seul monument. Car cette œuvre puissante a été accomplie en faveur de tous les rachetés, même si beaucoup n'en ont pas confiance. Le double mémorial l'atteste pour toujours. Ainsi, la croix m'a valu 3 grandes délivrances qui illustrent la Pâque, la mer Rouge et le Jourdain. La Pâque m'apprend que je suis délivré du jugement de Dieu. La mer Rouge m'enseigne que je suis libéré de mes ennemis extérieurs, Satan et le monde. Le Jourdain, enfin, m'annonce que j'ai le droit de tenir pour morte la chair, ce tyrannique ennemi intérieur. Les deux premières vérités sont saisies au moment de la nouvelle naissance. La troisième correspond à ce qu'on appelle l'affranchissement. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui.